Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Son oncle, Georges Semprin, qui fut ministre de la Culture du gouvernement socialiste de Felipe González, écrivit à son sujet « Dès l'adolescence, Vincent Darré a aimé les déguisements. Sans doute voulait-il déjà qu'on le prenne pour un autre. Il exhibait alors des personnages divers et variés pour protéger sa personnalité. » Bon, cet imaginaire fantasque et fécond est devenu sa carte de visite, en même temps qu'une gaieté vraiment qu'il infuse en toute chose, tout ce qu'il dessine, tout ce qu'il crée, meubles, objets, décors, costumes, une gaieté comme un mantra, une hygiène de vie ou un paravent, une gaieté du diable au sens où on le dit en fait de la beauté du diable, nuance même Bernard-Henri Lévy. Alors voilà, je reçois un véritable personnage connu tout autour de la planète dans l'univers de la décoration, Vincent Darré, qui signe des collaborations inattendues et vraiment réjouissantes avec de grands groupes, comme par exemple, en ce moment, Monoprix, pour qui sa collection capsule prouve voilà qu'on peut s'offrir du beau et de l'original à des prix presque minuscules.
Europe 1.
Bonjour Vincent Darré.
Bonjour.
Vincent Darré, lorsque quelqu'un d'étranger à votre univers vous demande « Quel est votre métier ?» Vous répondez quoi ?
Eh bien, au départ, j'avais beaucoup de mal parce que je travaillais dans la mode et j'avais l'impression de faire un métier qui ne me ressemblait pas. Depuis que je fais un peu tout, je me ressemble un peu plus. Mais oui, c'est comme ça. En fait, je me définis plus comme un décorateur qu'un architecte d'intérieur parce que je n'ai pas fait d'études d'architecture. Et designer pour les meubles, même si je n'aime pas ce mot « designer », qui fait un terme moderne, donc je suis plus dans la lignée des arts décoratifs et je travaille plus sur des pièces uniques ou des choses un peu exceptionnelles. Mon univers est très excentrique.
Très excentrique, c'est-à-dire vous dessinez des objets, des meubles, des décors aussi flamboyants que poétiques, surréalistes, avec des références qui vont de Cocteau à Dali, en passant par exemple Christian Bérard, Max Ernst, Cécile Beaton, n'oublions pas les dadaïstes. Mais s'il fallait définir le style, Vincent Darré, vous nous l'expliqueriez comment? Alors, excentrique?
Oui, c'est un style. De toute façon, c'est toujours très difficile de se définir soi-même. Ça devient très prétentieux. Mais tout le monde me fait un petit peu un parallèle, toujours avec le surréalisme, ce que je trouve assez vrai.
Mais pas tout à fait, quand même.
Non, parce que j'ai des références qui sont des références aussi très classiques, du baroque italien, mais dans le baroque italien, on retrouve le surréalisme. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir une mère intellectuelle de gauche qui m'a emmené au théâtre voir les premiers Bob Wilson, voir des expositions. Et ça m'a déjà ouvert l'esprit sur plein d'univers. Et j'ai à l'intérieur de mon petit cerveau plein de références que je sors quand, quand on me catalogue toujours surréaliste. Vous avez raison, c'est un peu rédhibitoire, mais en fait, c'est aussi peut-être de prendre la vie d'une manière...
De la réenchanter.
Oui, avec de l'humour, je crois, surtout. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'humour.
C'est dans votre ADN, ça.
Oui.
Alors, Vincent Darré, il faut de l'audace, il faut aimer les cabinets de curiosité, il faut la passion des couleurs pour plonger dans votre univers. Or, l'époque est grise, et notre époque, elle vante plus le minimalisme que l'exubérance. Qui sont vos clients ?
Eh bien, enfin, ce qui est bien, c'est que les gens qui viennent me voir, ils viennent me voir en sachant très bien que ça ne va pas être normal. Enfin bon, normal, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça ne sera pas classique.
Voilà, classique. Et ça me plaît parce que déjà, j'ai carte blanche. Moi, je ne peux pas travailler si on ne me donne pas carte blanche. Et c'est des gens les plus variés, comme vous venez de dire. Je viens de faire une collection Monoprix. Et là, ils m'ont dit, vous faites tout ce que vous voulez. J'ai fait un déjeuner sur l'herbe, invitant tous les animaux de la prairie à se transformer en théière, des coccinelles en salière, un oiseau en chaise.
Ah, mais c'était un bestiaire magique.
Voilà.
C'est merveilleux, on a envie de tout. Les Français ne sont pas très doués pour l'exubérance, hein, théoriquement en tout cas. Je trouve qu'ils ne sont pas très exubérants dans leur dressing, ni dans leur mobilier d'ailleurs. Il y a des peuples plus doués que d'autres pour une idée joyeuse de l'excentricité ?
L'excentricité vient des Anglais, je pense. Et donc, les Anglais ont un vrai goût des couleurs et ont un vrai sens des vêtements aussi. C'est eux, c'est là.
Plus que les Italiens.
Les Italiens,
qui ont inventé le baroque.
Oui, c'est le baroque, mais en même temps, c'est des couleurs. C'est vrai qu'ils sont... Mais ils ne sont pas excentriques, les Italiens. Ils ont un vrai goût, ils aiment vivre. Donc, ils ont un savoir-vivre, une représentation, ils adorent plaire. Sont plus superficiels que les Français, mais les Anglais ont le vrai goût en fait de l'excentricité. de se mettre des robes du soir en plein jour, porter... Voilà, le punk vient de là, la musique quand même vient pas mal de là. Les Italiens, c'est différent.
Cocteau, qu'on peut désigner comme votre mentor, disait que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Les gens, en fait, ressemblent très souvent aux décors dans lesquels ils vivent. Les Français, par essence, sont classiques et vivent plutôt, en général, dans des décors classiques.
Oui, peut-être, mais j'adore cette phrase de Cocteau, parce que je pense qu'elle est très vraie, parce que quand on arrive en Italie, ben déjà, tout le monde vous fait des compliments, ce qui est rare en France. En France, on est radin sur les compliments. Et je pense que ça, c'est l'Italie. C'est venez, on fait un dîner. Non, ah ben on est trois, mais un tel arrive, on est cinq, dix, ça n'a aucune importance. Tandis qu'à Paris, on vous dit, ah, j'ai un dîner ce soir. On ne vous dit pas, si tu appelles et que tu es seul, ça veut dire que tu as envie, qu'il faut aider les gens. Donc on leur dit, bah, viens dîner avec nous, j'appelle. Ouais. Ça, c'est typiquement français. Donc...
Mais si on reste quand même sur l'Italie, parce que les Italiens, ils ont toujours eu le sens de la beauté dans la démesure, n'est-ce pas ? Votre maman, par exemple, elle vous emmenait souvent en Italie quand vous étiez enfant.
Oui.
Il paraît qu'elle aimait se promener avec vous dans les jardins de Bomarzo, c'est
Bomarzo,
ça ? À peu près à une centaine de kilomètres de Rome.
Oui, avec un jardin baroque totalement surréaliste, avec des monstres.
Voilà, créé, en fait, des monstres de pierre géants, créés par un duc complètement excentrique à l'époque de la Renaissance.
Oui.
Et tout ça faisait un décor hallucinant dans lequel vous rêviez.
Oui, mais surtout, c'est que ce qui est merveilleux, c'est quand on est adolescent, c'est de tomber dans un endroit où on a l'impression d'être dans un décor de Cocteau, justement, quand on en parlait de La Belle et la Bête. Il y a un rocher qui est une bouche énorme, avec on rentre à l'intérieur, il y a une tour... Et le Bomarzo est vraiment un jardin de contes de fées. Il y a des monstres, des gorgognes, des sirènes gigantesques. Et à l'époque, tout était recouvert de feuilles. Et on avait vraiment l'impression qu'on découvrait ça.
Oui. Voilà. Et ça forge forcément un goût de manière singulière.
Oui, mais c'est vrai que je remercie ma mère tous les jours de m'avoir donné. Ben, certains ont des marraines qui viennent avec des baguettes magiques. Ben là, c'est peut-être une mère... Et peut-être excentrique, non pas excentrique, mais en fait première féministe à défendre l'avortement, à se battre pour les femmes. Elle m'a fait défiler avec une pancarte « Je suis un enfant désiré ». Donc ça commence bien.
Ça commence bien. Alors, je reste sur la déco, sur le goût, Vincent Daré. Est-ce que vous partagez l'avis de Marcel Duchamp qui affirmait que le grand ennemi de l'art... Bah, c'est le bon goût.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Je pensais que vous alliez dire ça. Je ne connaissais pas la phrase, mais je crois que les gens qui ont peur du mauvais goût, eh bien, ils sont. C'est ça le grand problème. Quand on me dit qu'est-ce que c'est le mauvais goût, eh bien, je dis c'est une maison toute beige avec une console en bois meurisé, une orchidée blanche et une photo en noir et blanche.
Voilà.
Pour moi, ça,
alors
c'est le mauvais goût.
Là, vous avez survolé les pages à peu près de tous les magazines de déco actuels.
Non, parce que maintenant, ça commence à changer.
Grâce
les gens...
à vous.
Bon, c'est pas grâce à moi, il faut pas exagérer, mais je fais partie d'il y a tout le temps. Moi, je crois que la décoration est assez proche de la mode. Il y a vraiment des mouvances. Il y a des moments où la décoration, c'est minimaliste, comme la mode. Et puis tout d'un coup, les gens n'en peuvent plus, ils ont envie de couleurs. Et il y a un mouvement qui va vers une autre tendance. Et c'est bien parce que c'est mon moment et... Heureusement, j'en profite.
D'ailleurs, avec beaucoup de malice, Vincent Daré, vous affirmez que si vous aviez vécu dans une autre époque, n'importe quelle autre époque, eh ben, on vous aurait pris pour quelqu'un en fait, de très classique. N'est-ce pas ? Parce que les autres époques étaient beaucoup plus inventives, plus fantaisistes, plus folles.
Bah, c'est sûr.
Donc
que...
l'époque actuelle ne vous convient pas tout à fait, elle n'est pas vraiment faite pour vous. C'est pour ça que vous dessinez presque tout, justement, tout ce qui peut réenchanter notre quotidien.
Oui, non, mais c'est aussi une manière de vivre. Je pense que j'ai toujours été, mon frère m'emmenait voir tous les films, il était cinéphile, et j'ai été élevé par les comédies musicales américaines, hollywoodiennes, de Minelli. Et tout de suite, j'ai pensé que j'étais un acteur, que j'étais l'acteur de ma propre vie, et je le vis toujours comme ça. Donc je m'habille le matin en me disant, bah, ça y est, tu vas partir pour une grande comédie musicale.
Vous êtes déjà votre premier spectateur.
Oui, ben, je crois que ça met de bonne humeur. Quand on parle de ça, c'est que aussi... Moi, je vois que vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Eh bien,
écoutez, c'était pour vous accueillir, vous voyez, j'ai fait cet effort. Alors, je ne sais pas si j'ai visé juste, mais en tout cas, j'ai tenté.
Mais tellement juste. Mais ça fait, voilà, en plus, en ce moment, avec ce qui se passe, les gens s'habillent de moins en moins. Plein de gens ne travaillent même plus dans des bureaux, donc ils ne font pas d'efforts. Or que ce n'est pas vrai, parce que je pense que le moment où on va mal, le seul moyen de se sortir de là, c'est le matin d'être fier de se regarder dans le miroir. Déjà, pour le narcissisme, on se dit bon, bah, allez, ça y est, je m'en suis pris une bonne dose et je suis pas mal. C'est pas mal.
Voilà, c'est un baume.
Exactement.
Bon, on fait une pause très très courte. On retrouve tout de suite Vincent Darré.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois un décorateur hors norme, à contre-courant, mais oui, et heureux de l'être. Vincent Darré, votre père était sociologue, communiste, votre maman éditrice, et votre oncle était donc l'écrivain Georges Semprin, qui fut ministre de la Culture du gouvernement socialiste de Felipe González. Vous, au milieu de ces intellectuels de gauche, très tôt, vous avez affirmé votre singularité qui passait par un goût affirmé pour l'excentricité. Alors voilà, ma question est toute simple. Est-ce que l'excentricité est compatible avec l'esprit de la gauche?
C'est sûr que, de toute façon, je suis né dans une famille d'intellectuels, comme vous l'avez dit, et ça m'était très difficile parce que j'avais, comme je crois les fils de boulanger, j'avais pas envie de manger du pain, et donc j'avais beaucoup de mal à lire. Et je me suis évadé dans une chose visuelle, peut-être c'est ça. Et j'ai créé un monde qui était le mien, très jeune. Mais mes parents, au contraire, et toute la famille, ce qui est bien dans ce genre de famille, c'est qu'on vous pousse à être artiste. Et même, je sais, quand j'ai travaillé dans la mode, mon père m'a dit « Ah, c'est dommage, t'imaginais artiste », parce que pour lui, c'était pas assez artiste de travailler dans la mode.
Vraiment ?
Oui.
Ah oui, donc ça veut dire que ça, c'est un blanc-seing extraordinaire.
Mais j'ai une chance, c'est vraiment une éducation libre, avec une morale. Alors en revanche, c'est pire que les cathos, c'est-à-dire c'est une chose, le respect des autres, on n'ouvre pas un courrier, on le regarde, on ne fait pas ci, c'est plein d'embrouilles. Et plein de choses aussi, le dégoût de l'argent. Alors donc ça, je préférerais ne pas l'avoir, je préférerais gagner beaucoup plus d'argent. Mais là, j'ai cette éducation qui fait qu'on ne doit pas parler d'argent, que l'argent ne compte pas, que c'est le geste, que c'est ce que voilà, l'on fait qui est important.
Voilà, la générosité, que l'argent lui-même n'est pas respectable. Voilà.
Oui, ou que c'est pas un but en soi.
Mmh. Vincent Darré, vous avez confié qu'à l'époque où vous étiez à l'école alsacienne, vous trouviez quand même que ses parents, formidables, étaient vraiment très bohèmes, presque trop bohème, au point que, paraît-il, vous êtes débrouillé pour vous faire, en quelque sorte, adopter par la famille Nizan, famille de notables, plus conforme au cadre dont vous rêviez. Concrètement, ça signifie quoi ? Vous viviez avec eux une bonne partie de l'année, avec les enfants,
non,
Nizan ?
Non, en fait, c'est
comme une pièce rapportée ? Oui, expliquez-nous.
Écoutez, en fait, après, je me suis aperçu que ça a commencé comme ça et ça a continué. Je me suis trouvé toujours des familles d'adoption. Et là, quand j'étais enfant et que les parents venaient chercher leurs enfants, je crois que ça arrive à beaucoup d'enfants d'avoir honte de ses parents quand ils viennent vous chercher à l'école.
Et pourquoi aviez-vous honte d'eux ?
Parce qu'ils avaient, par exemple, on n'avait pas d'argent, donc ils avaient une vieille 203, ce qui était un taco pour l'époque. Et puis après, ils s'habillaient d'une manière bizarre. Et c'est vrai, j'avais cette famille...
Le futur excentrique, vous trouvez que vos parents s'habillaient d'une façon...
Quand on est enfant, on fait attention, on a peur de regarder les autres. Et j'avais cette famille, les Nizan, qui étaient les petits-enfants de l'écrivain.
Ouais.
Et eux, la mère, elle était blonde, avec des yeux bleus, elle s'habillait très très bien, les enfants étaient parfaits. C'était le genre un peu habillé bon point, joli, et toute la famille de rêve. Moi, à l'époque, c'était un peu bric-broc. Chez moi, il y avait la moitié des meubles qui ne tenaient pas debout. Et ça me rassurait, cette famille. Donc, j'allais chez eux tout le temps. J'arrivais toujours à l'heure du déjeuner, on m'invitait à déjeuner, j'étais tout content. J'avais l'impression d'être dans une famille où c'était reposant. Je ne sais pas pourquoi. Et puis après, j'ai continué et j'ai, durant toute ma vie, Marie Ruki, qui était la directrice du studio Berceau.
Où vous avez donc fait vos classes pendant 3 ans
voilà.
Pour la mode.
Pour la mode, la même chose. Elle m'a accueilli, après elle m'a proposé d'habiter chez elle. Et donc j'habitais chez ma directrice de l'école. Je trouvais ça tout à fait normal. Et
puis, donc tout au long de votre histoire, vous vous êtes trouvé des familles d'adoption.
Oui, après j'ai...
Adoptez-moi.
J'ai quand, justement, quand mon oncle... Georges Semprin avait son avocat Pierre Hébé, qui était sa femme Geneviève Hébé. C'est eux qui m'ont présenté à Karl Lagerfeld.
Oui.
Et c'est devenu aussi une famille d'adoption parce qu'ils représentaient quelque chose. Ils me protégeaient. C'est des gens qui me protègent, comme aussi Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal, chez qui je me sens aussi protégé.
Oui.
J'ai plein de gens comme ça qui sont des familles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ma famille me semblait pas très je ne sais pas, pas très stables, ou peut-être ils m'angoissaient, ou peut-être je les voyais. Je ne comprends pas, oui, je ne sais pas du tout analyser ça encore.
Donc vous avez choisi voilà, des amis comme une espèce de joli rempart. Vous avez toujours dessiné, toujours?
Oui, parce que justement, mes parents m'ont beaucoup poussé à dessiner. Dès le début, je devais dessiner, je devais être un enfant comme tout le monde qui devait dessiner. Et tout le monde dit toujours, les enfants, « Ah, mais c'est merveilleux ce que tu dessines ». Et là, ils l'ont fait peut-être plus que les autres. Et j'en ai profité, j'ai continué. Ils m'ont poussé à dessiner, à peindre, à faire plein de choses.
Mais alors, pourquoi avez-vous d'abord préféré la mode à la déco? Puisque, effectivement, vous avez été formé au studio Berceau, qui est une école de stylisme très réputée, dont sont sortis, par exemple, Isabelle Marant,
oui.
Le couturier Roland Mourel, Lolita Lempicka, Vanessa Seward. Pourquoi avoir choisi d'abord la mode?
Parce qu'au début, je voulais faire décorateur et costumier de cinéma et de théâtre. D'ailleurs, en fait, maintenant que j'ai fait la boucle, j'ai fait les deux.
Oui,
j'ai fait des costumes et des décors.
Pour l'opéra aussi, vous avez signé des costumes et des décors.
Et puis, j'ai fait des écoles, donc j'ai fait les arts décoratifs, avant une préparation pour les arts décoratifs. Et puis après, tout d'un coup, je me suis mis à sortir au Palace et j'ai fait des robes pour mes amis avec des épingles à nourrice et tout le monde m'a dit... Mais en fait, tu devrais faire de la mode. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Après, je suis rentré au studio Berceau. Mais c'est le hasard. C'est qu'à l'époque, la mode était à la mode. Et que c'était...
Vous trouvez qu'elle l'est moins?
Ben, je trouve un peu moins. Mais je ne veux pas avoir l'impression d'être un vieux réac. Mais ce n'est pas ça. C'est que je trouve que c'est devenu une industrie. Ouais. À l'époque, c'était les années 80, les tout débuts de Mugler, Montana, Jean-Paul Gaultier. Il y avait une énergie. Maintenant, c'est des vieilles maisons qu'on fait revivre. Et puis, c'était une époque aussi... où il y avait de la disco, où les gens sortaient, où il y avait une effervescence. En fait, c'était le palais du paraître. Voilà. C'est la foire aux vanités. Les gens
Exactement.
Rentraient là s'ils étaient bien habillés. Donc, ouais. C'était vraiment... n'importe qui avait un look un peu extraordinaire pouvait rentrer.
Mais alors, je reviens sur le chapitre du studio, donc Berceau.
Oui.
Quand on sort d'une telle école, quel est le protocole pour entrer dans une maison de couture? Ça ouvre vraiment toutes les portes de sortir diplômé d'une école de mode ou pas vraiment?
Moi, si, ça sert parce que Marie Rucki avait plein de connexions et moi aussi, j'avais rencontré des gens. Donc, j'ai commencé, je suis devenu assistant chez Yves Saint-Laurent,
oui.
Mais qui était une maison très, très, très sérieuse. Et donc, c'était le rêve à l'époque. Saint-Laurent, ça a toujours été, c'était le grand couturier dont tout le monde rêvait. On le voyait au Palace avec Loulou de
Alors,
la Falaise.
Être assistant de Saint-Laurent, ça signifie quoi?
Oh ben, ça commence au départ, on fait dans les petits ateliers.
On apporte les cafés.
Voilà, on fait les arpèges dans les petits
D'accord.
ateliers, à passer des droits fils. Après, on a la chance de descendre, d'assister à un essayage de Monsieur Saint-Laurent dans le studio. Là, on fait des gaffes, évidemment, j'allume une cigarette et Anne-Marie Munoz dit à un autre assistant que je dois éteindre ma cigarette.
Elle ne enfin, vous le dit pas directement?
Non, c'était tout un
pyramidal.
Protocole.
C'est pyramidal, oh là là.
Voilà. Mais c'était merveilleux parce que c'était la dernière maison de couture et le dernier ouais. grand couturier. Yves Saint-Laurent était le dernier monstre de la haute couture et représentait une époque qui allait disparaître. Avec les Rothschild, enfin il y avait tout ça, avec un côté très proustien. C'est ça que j'ai aimé aussi dans cette maison, c'est que Pierre Berger, avec qui je suis devenu ami beaucoup plus tard, avait entouré Yves Saint-Laurent et avec des personnages comme Hélène Rochas, Betty Catrou, Loulou de la Falaise. Et tout ça ressemblait à une société, comme Proust en parle dans le bal, où on les voit comme ça, comme des poissons dans un aquarium. Et nous, on les voyait de loin, donc on en rêvait. Mais alors, Diète, c'était moins drôle. Et, et donc, Thierry Ardisson m'a proposé de faire un espèce de roman photo qui s'appelait Scoopy. Et j'ai fui chez Yves Saint-Laurent et je suis allé faire des bêtises, à poser en photo en Tintin. Ça m'a beaucoup plus amusé. Et puis après, Marie Rucki m'a dit « Non, ça suffit, Vincent, il faut que vous travailliez. » Donc, je suis rentré chez Montana, Claude
oui.
Montana.
Bon, alors, la maison d'arrêt, qui est votre maison de décoration, était encore loin de montrer le bout de son nez, n'est-ce pas? Parce
ah oui,
que on va vous suivre dans l'univers de la mode et évoquer Lagerfeld. Votre vie, en fait, Vincent d'arrêt, elle est faite vraiment de mille vies. On fait une pause très courte, on se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Vincent d'Arré, au cours des 20 dernières années du siècle dernier, eh bien vous avez donc travaillé dans la mode pour les plus grandes maisons. On évoquait tout à l'heure Saint-Laurent, Claude Montana, mais il y a eu Prada et finalement vous avez rejoint Karl Lagerfeld chez Fendi. Au sujet de Lagerfeld, vous dites « Karl Lagerfeld a réalisé dans la mode ce qu'Andy Warhol, lui, a réalisé dans l'art. Vous pouvez nous expliquer un peu plus? On a dit que c'était effectivement, sans doute, en même temps qu'un immense couturier, le premier des designers. Mais Camus, vous faites une comparaison, un parallèle avec Warhol.
Oui, parce que je trouve que Karl, c'est lui qui a lancé une maison de couture ancienne comme Chanel, en se servant des codes de Coco Chanel et en les faisant une dérision et en les rendant énormes, gigantesques, en les exagérant. Ce qu'avait fait Andy Warhol avec la peinture, en faisant les boîtes de Coca-Cola, des choses comme ça. Et je trouve que Karl, il a appliqué cette idée. Et mais écoutez, avec beaucoup plus de culture, hein, parce que Andy Warhol, pour moi, ce n'était pas grand-chose. Hein. Vous savez, à New York, c'était un petit groupe de gens. Ah non, moi, je suis beaucoup plus cultivé. Moi, c'est des références qui sont vraiment qui partent du 18e siècle. Et puis, évidemment, il y a des choses viennoises. Et moi, je ne veux pas me réduire à un petit designer et tout ça. De toute façon, je laisse ça aux autres.
J'applaudis. Cher Karl Lagerfeld, si vous nous écoutez, impressionnant. Mais mais c'est extraordinaire parce que. Au départ, Vincent Daré, les choses avec Lagerfeld, elles avaient mal démarré. La décoratrice André Poutman, qui était votre amie, intriguait, paraît-il, pour que vraiment Lagerfeld vous prenne comme assistant. Au tout départ, il avait refusé, c'est ça?
Ah oui, faut dire que j'étais quand même très turbulent. On était toute une bande, Christian Louboutin, Eva Ionesco, Farida, Olivia Poutman, qui m'avait déjà présenté sa mère. Et André disait « Oui, c'est un petit génie ». Alors elle va voir Karl Lagerfeld et lui dit ça. Et lui m'avait vu danser sur les tables et être très arrogant, ce que j'étais à l'époque. Il a dit « Oh, je ne veux pas de cette petite folle prétentieuse ». Et il avait bien raison. Donc ce qui est amusant, c'est que des années plus tard, par justement l'avocat Pierre Hébé, qui était aussi l'avocat de Karl Lagerfeld, et sa femme Geneviève, on dit à Karl « Mais tu devrais rencontrer Vincent ». Et il avait changé d'avis.
Ah mais attendez, c'est quand même votre talent qui a permis justement de provoquer cette rencontre. Parce qu'un soir, dans les coulisses du Bal de la Rose...
Bah dis donc, quelle mémoire.
Bah oui, la pièce de copie dont vous aviez réalisé les costumes pour Alfredo Arias.
Oui.
Bon, Lagerfeld s'approche pour vous féliciter. Il était impressionné. Et puis surtout, avec son œil de lynx et puis sa mémoire... sa culture exhaustive, il avait vu que vous étiez inspiré d'une robe portée 40 ans plus tôt, justement, au bal vénitien de Bestégui.
Vous avez fait la robe de Daisy Fellow qu'elle portait pour le bal des Bestégui à Venise. Voilà. Oui. C'est vrai. Mais de toute façon, ça, c'est Karl.
Mais vous l'aviez épaté ce soir-là, la garçon.
Oui, parce que ce qui l'épate, c'est les gens qui sortent de la normale et qui ont du courage. Parce qu'il faut un petit peu quand même de courage pour prendre des rues qui sont plus difficiles, qui sont celles des gens qui ne veulent pas ressembler à tout le monde et qui veulent faire quelque chose d'un peu spécial dans leur vie, on en souffre plus. Et Karl était sensible à ça. Et après, même quand j'ai arrêté de travailler avec lui, normalement, il coupait la tête de tout le monde. Donc on partait, on se faisait couper la tête.
Ouais.
Moi, je lui ai annoncé, je lui ai dit, écoute, on me proposait à l'époque une Moschino, une collection. Et je travaillais chez Fendi depuis 6 ans avec lui. Et puis je lui ai dit, écoute, Karl... Moi, j'ai envie maintenant de faire quelque chose de ma vie. Je veux, parce que autrement, c'est vrai que chez Karl, on pouvait rester toute sa vie. Il nous gâtait, mais il est merveilleux. C'est un personnage extraordinaire et totalement généreux. Et je lui ai dit, mais il y a une condition, c'est que tu te fâches pas avec moi et qu'on reste amis. Oh, puis moi, dit, mais non, je ne veux pas me fâcher avec toi, viens m'embrasser et tout ça. Et donc, il a accepté, puis il m'a même fait... Parce qu'il continuait à faire des essayages avec les Fendi m'appelaient, ils me disaient « Mais viens, on fait des essayages à Paris chez Karl, on vient déjeuner avec nous ». Et moi, je déjeunais avec eux, puis après les essayages, je faisais en même temps Moschino. Et je lui dis « Mais Karl, je ne vais pas rester aux essayages de Fendi, parce que c'est quand même une maison, je suis concurrent ».« Oh, mais pourquoi concurrent ?» Je dis « Je fais Moschino ».« Oh, pour Moschino, ce n'est pas un style, c'est un pastiche ».
Et je lui dis « Terrible
bah... !» Oui, mais...
Terrible.
Mais oui, mais c'est ça qui est merveilleux de Karl, c'est qu'il avait un humour... et une culture, le tout mélangé. On s'ennuyait jamais avec lui.
Alors, vous êtes resté 6 ans auprès de Lagerfeld. Effectivement, Lagerfeld vous a embarqué à Rome chez Fendi, vous êtes devenu son bras droit. Vous pouvez nous raconter la vie et la mode à Rome, Vincent Daré, dans ces années prospères qui ont signé la fin du millénaire? Parce que vivre à Rome et dessiner, travailler auprès de Lagerfeld à Rome, franchement, quel luxe.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Mais surtout, alors, ce qui était merveilleux, c'est que c'est vrai, vous avez raison, c'est la fin d'une époque, parce que quand je vois La Grande des Belles Lettres, ça et tous les films qu'a fait ce metteur en scène italien, c'est exactement ce que j'ai connu à Rome. Ces fêtes avec le mélange d'aristocratie, de soubrette de la télévision, de mafieux de la politique qui dansent sur les tables, très bronzés. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis toujours trop bronzé. Et puis, il y avait une joie de vivre qui rappelait l'époque de la Dolce Vita, mais en plus décadent et un peu plus vulgaire. Et j'avais ça et il va avoir Karl. Donc j'avais tout le monde en même temps. Et Karl venait épisodiquement et moi je restais, je surveillais toute la continuité de son travail. Et je le représentais à Rome. Et puis après je venais le voir, il venait me voir et on travaillait ensemble.
On fait une pause très courte, on se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es.
L'amitié, c'est les cœurs, les amis. C'est ceux qui t'accompagnent, même quand tu chantes faux. Quand t'es pas hyper juste, ça arrive. Ils s'arrêtent pas les cœurs. C'est difficile de définir l'amitié, la vraie. Et quelque part c'est très simple. Quelque part c'est très simple. C'est quand
tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas les cœurs, non. S'arrête pas. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es.
Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point. C'est ceux qui sont encore là après toutes ces années, après toutes les distances, après toutes les crises. C'est ceux qui sont encore là, vraiment là, et malgré tout. Tu vois, c'est très simple. C'est très simple, c'est quand.
Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas les cœurs, non. Ils s'arrêtent pas. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses. Dis-moi comment tu danses.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Il signe de son extravagance joyeuse des meubles, des objets, des décors, des costumes. Pour l'opéra d'ailleurs, je reçois Vincent Darré. Vincent Darré, on raconte qu'en 2001, sortant d'une exposition sur le mouvement dadaïste, eh bien vous étiez si enthousiaste et inspiré que vous avez dessiné une coiffeuse hippocampe pour votre ami Ariel Dombal. Le dessin est donc devenu un vrai meuble, c'est-à-dire que la sirène Ariel Dombal a une coiffeuse en forme d'hippocampe dans sa chambre.
Oui, mais de toute façon, c'est ça qui est agréable dans notre métier, c'est de dessiner et que le dessin prenne vie. Et ça, c'est un petit miracle. Et surtout quand on imagine, comme vous dites, une coiffeuse hippocampe, dans la même collection, il y avait aussi un sommelier en forme de homard langouste qui a fini dans la maison Schiaparelli, c'était là qu'il devait aller atterrir, grâce à Inès de la Fessence.
Jeff Koons aurait
c'est très
jaloux.
Jeff Koons. Voilà. Et puis, il y avait des tables de nuit en forme de grenouille, des lampes en forme d'octopus,
Et ça n'arrête plus à Schiaparelli.
Oui, mais ça s'appelait, la collection s'appelait Allo Dali, pour le côté aquatique et allo. Allo, allo. Oui, enfin, maintenant, je ne sais plus, on ne dit même plus allo quand on est au téléphone.
Non, c'est vrai. Un mot qui a disparu, vous avez tout à fait raison. Mais alors, dites-moi, ça a été facile ou ça a été compliqué quand vous avez démarré de trouver les bons artisans pour réaliser de tels meubles ? Mais tellement hors norme.
Mais ce qui était bien, c'est que j'ai abandonné la mode. Au départ, je voulais faire décoration et mode. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que dans la mode, je n'avais plus rien à dire. Parce qu'on devient cynique quand on a travaillé pour plein de maisons. Et en revanche, la décoration était pour moi totalement nouvelle. Et j'étais frais et naïf. Je crois que quand on veut faire quelque chose de personnel, il faut garder une chose de l'enfance et de ses rêves. Et alors là, j'ai commencé à dessiner tout un cabinet de curiosités. Ma première collection s'appelait Ossobuco, qui était que des squelettes, genre Tim Burton qui dansait la danse de Saint-Guy. Après, la deuxième, c'était Allo Dali, où il y avait donc tous ces objets aquatiques. La troisième était Cadavre Exquis, qui était un cadavre exquis de personnages, qui étaient des tables, des tapis.
Non, alors ça, c'était à l'époque, sous le sceau de Maison Dada, c'est ça ?
Maison d'arrêt.
Ah, tout de suite, c'était déjà Maison d'arrêt.
C'était Maison d'arrêt.
Ah, d'accord.
C'était
d'accord.
Inspiré du dadaïsme. Mais moi, ce qui m'avait plu du dadaïsme, c'était qu'il y avait des jeux de mots sur tous les titres. Alors, on faisait, par exemple, le miroir fémur, la table à grandes échasses, appliquez-vous. C'était que des délires comme ça.
Mais alors, vos amis ont été vos premiers clients, oui. Et ensuite, les commandes sont nées par le bouche à oreille, Vincent Daré ?
Oui, et puis aussi les magazines, on a commencé à voir cette décoration. Inès Sastre, que j'avais rencontré justement à l'époque de Karl Lagerfeld, m'a proposé de faire son appartement. Après, on m'a demandé de faire l'hôtel Montana. Et puis le AD, Marie Kalt, qui est la rédactrice en chef, faisait ce parcours des décorateurs. Et j'ai rencontré ceux qui avaient déjà une renommée, comme Joseph Durand, Pierre Jovanovitch, India Madavi. Et ça a été très, très... J'ai adoré cette rencontre parce que j'ai compris qu'il y avait un milieu qui n'était pas comme celui de la mode, oui. Où les gens, en plus, eux, ils étaient ravis parce que je n'étais pas un concurrent.
C'est
comme
ça.
Mon style était trop différent.
Voilà.
C'est sûr que je faisais peur à personne dans le milieu de la mode, dans le milieu de la décoration, pardon.
Mais alors, Vincent Daré, j'ai appris que pour les meubles que oui. Vous créez, avec les ateliers de France, c'est
oui,
ça ?
Oui, ça, c'est la collection Renaissance que j'ai créée avec les grands ateliers.
Et ben, j'ai appris que vous avez réintroduit la notion d'estampille, comme au XVIIIe siècle.
Oui.
C'est-à-dire que vos meubles sont poinçonnés et signés. Pourquoi s'était-elle perdue, cette tradition ?
Je ne sais pas. Après, tout le monde fait des éditions numérotées, qui, je trouve bien, mais c'est parce que c'est vrai que ça se rapproche de l'art. Mais je trouvais que travailler avec des grands artisans, en France, on a une culture de l'artisanat qui est extraordinaire. Et par exemple, Lison de Caunes, son grand-père travaillait avec Jean-Michel Franck, c'était Groult et tout ça. Et d'avoir la signature d'un tel artisanat, ça rajoute une valeur à ton meuble. Et là, je fais une nouvelle collection de meubles qui s'appelle Insomniac Collection, qui est sur le rêve et la psychanalyse, et qui sera présentée à la Galerie du Passage chez Pierre Passebon, oui, le 19 mai.
Oui.
Et là, je l'ai fait en Italie avec un garçon qui a repris un atelier de menuiserie et qui s'appelle Franchetti. C'est une famille, genre les Rothschild, version excentrique, babacool, romain.
Donc ça vous va très bien.
Ah, mais moi, j'ai rencontré cette famille avec ce fou, il s'appelle Pietro Arco, je trouve déjà un prénom comme ça. C'est miraculeux, dans le Trastevere et à Rome, aller faire mes meubles là-bas, c'est un rêve.
Alors, les décors, donc, que vous imaginez, naissent sous vos crayons, vous faites des aquarelles, vous adorez dessiner. Et puis, pour les décors, eh bien, vous allez aussi, parfois, chiner aux puces, en quête de l'objet unique ou poétique. Mais alors, concrètement, je voudrais que vous nous expliquiez. Parce que vous, dont les tenues sont visibles, n'est-ce
oui.
pas ? Vous êtes repérable de loin, Vincent Daré. Je voudrais savoir comment vous vous débrouillez pour échapper quand vous allez aux puces de Saint-Ouen, porte devant, porte de Clignancourt. Comment vous faites pour échapper aux agressions des bandes qui sont aux aguets ? Il y a des dealers, il y a des gens qui vendent des cartes de crédit à la sauvette.
Oh, bah dis donc, vous n'allez pas faire de la pub pour
mais
les
non,
puces.
Mais attendez, je voudrais... Non, sincèrement, c'est factuel. Il faut faire attention à son portable. Enfin, comment faites-vous pour traverser sans encombre cette faune qui est à l'entrée des puces? Après, les puces, c'est magique, c'est extraordinaire.
Oui, mais il faut dire au taxi de vous déposer rue des Rosiers. Si vous voulez, vous commencez par là.
Et ben voilà.
Et puis après, moi, je trouve les gens des puces adorables. Ils me connaissent depuis, Je vais au Puce tous les week-ends à peu près. Pour moi, c'est ma maison de campagne. Et à chaque fois, les gens me connaissent depuis toujours. Et j'y vais avec des gens. Moi, c'est, je ne me fais pas agresser, mais je peux y aller avec Isabelle Adjani et des gens comme ça, ou Valérie, ou Ariel. Et les gens des Puces sont mais, tellement contents, parce que Catherine Deneuve, par exemple, va souvent aux Puces. Elle oui. est une adepte des Puces. Et je la rencontre souvent aux portes de Vanves. Mais je crois que les Puces, justement, il faut passer le périphérique et arriver rue des Rosiers. Et après, vous faites...
Donc, voilà.
C'est
vous
un
nous
musée
donnez...
à ciel ouvert, les Puces.
Oui, c'est le cinquième lieu le plus visité de France.
Oui, j'ai
extraordinaire.
Été, j'étais, il y a un an, l'ambassadeur des Puces. Il y avait une grande fête et j'ai beaucoup défendu que ça devait être classé à l'UNESCO, parce qu'il est déjà classé, mais à l'UNESCO, comme ça, ce sera impossible de le détruire et de détruire toutes ces vieilles baraques, parce que c'est quand même... des choses qui sont très éphémères.
Voilà, mais bon, réputé dans le monde entier, puisqu'il paraît que, par exemple, au moment de la FIAC, c'est-à-dire la Foire Internationale d'Art Contemporain, eh bien, on peut voir déambuler aux Puces des stars comme Julia Roberts, Uma Thurman, Lenny Kravitz, même John Kerry, l'ancien secrétaire des États-Unis.
Oui, c'est vrai. Mais il y a parfois des limousines qui arrivent avec des Américains super chics qui font le tour des Puces. Et c'est très, très drôle. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les Puces aussi laissent une liberté aux gens et c'est un incognito. Je crois que pour des gens très célèbres, les gens des Puces sont habitués et ils sont bienveillants et ils aiment voir des gens comme ça.
Alors, juste avant de faire une pause, Vincent Darré, quand on ne connaît pas comme vous tous les marchands, les us et coutumes des Puces, quand on n'est pas un professionnel qui a toutes les connexions, est-il possible encore d'acquérir des objets rares à des prix, on va dire, non prohibitifs?
Oui, absolument.
Toujours?
Mais évidemment... faut toujours... déjà, Porte de Vanves, c'est totalement différent. C'est un endroit où c'est comme un vide-grenier. Mais Porte de Clignancourt, il y a des choses. Tout d'un coup, on demande un objet, il coûte 8000 euros. Et puis à côté, il y a un autre objet et il coûte 50 euros, on ne sait pas pourquoi. Et il a un charme merveilleux. Il ne faut peut-être pas chercher le placement de la valeur de tout ça. Mais il faut chercher l'objet qui vous attire. Moi, je vais au Puces, je dis, il me faut une table, il me manque une table. Je prends les mesures et puis je reviens... avec une lampe. En fait, c'est ça les Puces.
On retrouve tout de suite Vincent Darré.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
C'est en compagnie du décorateur Vincent Darré qu'on se promène cet après-midi. Cher Vincent Darré, est-ce que notre époque permet, sans argent, je dis bien sans argent, de vivre par exemple dans un petit studio décoré avec esprit, originalité et caractère? C'est-à-dire, est-ce que le design bon marché aujourd'hui est presque aussi inventif que ce que proposent les créateurs de luxe?
Moi, je pense qu'en fait, c'est pas comme la mode, comme tous les univers esthétiques. On peut se fabriquer et se faire quelque chose sans argent. Et un appartement, il suffit de peindre un mur d'une jolie couleur. Il suffit d'acheter un morceau de papier peint, puisque c'est pas cher le papier peint. Et le papier peint, ça habille une pièce. Moi, je sais que souvent, les pièces les plus exiguës, je mets un papier peint parce que ça devient une pièce de rêve. Ouais. Après, chez Ikea, on trouve des choses très, très bien. Si on les mélange avec un truc qu'on va acheter aux Puces, ou en ce moment, on trouve des choses sur Internet avec eBay et tout ça, mais c'est extraordinaire, on trouve des merveilles. Et puis après, il y a plein de marques, bah comme ma collection chez Monoprix.
Et bien justement,
voilà. On va parler de Monoprix.
Mais oui, parce que complètement dans cet esprit, bah je rappelle que vous avez imaginé une collection capsule pour Monoprix, autour de l'idée donc d'un pique-nique au soleil, tel un merveilleux déjeuner sur l'herbe. Et vous avez conçu de la vaisselle, des nappes, des lampes, des chaises de jardin, des théières en forme de canard, des salières en forme de coccinelle. Voilà, tout un bestiaire enchanteur et très très pratique. Mais je voudrais savoir, c'est Monoprix qui vous a sollicité?
Oui, mais de toute façon, Monoprix, et c'est assez incroyable, ils vont avoir normalement une exposition au Musée des Arts Décoratifs sur toute l'histoire du design. Parce que depuis les années 60,
ah
Monoprix
oui
et Uniprix, parce que c'était la même maison, poussent le design. André Poutman a travaillé avec eux et
ah oui
a lancé les premiers meubles en plastique de couleur. Monoprix, il y a vraiment dans l'histoire de ce label un vrai rapprochement avec... le design.
Et ça, vous savez, ça me fait penser à cette époque où Karl Lagerfeld, justement, avec oui qui vous avez travaillé,
oui,
avait signé une collection capsule pour H&M.
Exactement. Et il arrive la même chose. Bon, je ne me prends pas pour Karl Lagerfeld, mais il arrive la même chose, c'est qu'on s'est dévalisé. Là, ça sortira en magasin le 15, mais c'était sorti en amont sur Internet. Et en deux jours, il n'y avait plus rien. Je recevais des mots sur Instagram. Je mettais les trucs et ils ont dit oui, mais il n'y en a plus. Je dis, mais moi, je fais pas le. Je ne manquais pas de la suite.
Alors, il faut dire que les pièces sont vraiment très originales et les prix sont tout petits.
Oui, les prix sont tout petits. Et c'est la première fois, quand vous me disiez est-ce qu'ils sont prêts, ils ont. Je n'aurais même pas posé la question. J'ai fait une chaise de jardin en forme d'oiseau. Et c'était en fait la première fois, ils me l'ont dit après, qu'ils faisaient une chaise. Et il y a donc une chaise, une table, une lampe en forme d'abeille. C'est des
prouesses. Des pichets en forme de poussin. Tout ça est plein d'humour.
Et puis il y a même une planche à pain en forme de tortue. Et en fait, ils font des prouesses techniques pour des choses qui coûtent pas cher du tout. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait souvent... Les gens disent « Ah, mais ce que tu fais, c'est très cher. » Et de réaliser des choses dans le même... Parce que moi, en chaque travail que je le fais avec la même conviction. Et j'ai envie que ça soit merveilleux, mais pas une chose à demi-faite. C'est pour ça que je me suis dédié autant à Monoprix que je me dédie à une collection avec les grands artisans. Et ce qui vient au résultat, on a des pièces qui sont exceptionnelles et qui, en fait, beaucoup de gens qui ne pouvaient pas s'acheter mes objets peuvent se les acheter.
Voilà. Mais alors, une collection capsule, c'est éphémère, Vincent Daré. Donc, cette collection, elle sera disponible chez Monoprix jusqu'à la fin de l'été, par exemple?
Ah non, mais ça dure très peu. Les gens se l'arrachent. Ça va durer 5 jours. Il faut se dépêcher. Mais c'est ça aussi où c'est excitant. C'est après, s'il y en a trop, ça saoule le marché. Je crois que Monoprix... tiennent à ce que soit quand même exceptionnel. Oui. Ils l'ont fait aussi avec d'autres designers comme India Manavi. Et c'est comme vous disiez, comme H&M avec Karl Lagerfeld.
Exactement. Alors, entre le grand luxe et le très abordable, vous multipliez vraiment les collections puisque vous avez également dessiné une nouvelle cuisine pour Mobalpa. Et ça, on va le découvrir en septembre.
Oui, c'est vrai. J'ai fait une
nouveau
cuisine.
Défi.
Ah oui, mais surtout quand on imagine l'univers de Mobalpa, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont venus me chercher?
Mais en fait, tout le monde vous réclame maintenant.
Oui, c'est plutôt agréable. J'ai fait une cuisine métaphysique.
Alors là, il faut nous expliquer, parce qu'une cuisine métaphysique, elle est en mots, ça donne quoi pour comprendre?
Eh bien, elle a un petit chapiteau, elle est en miroir, elle est verte. Et elle est comme une chose un peu à la Memphis, qui était ce designer des années 70 italien.
Bon, on va découvrir ça en septembre. Vincent Daré, quel est l'objet chez vous dont vous ne vous séparerez jamais?
C'est une main qui vient de ma famille, qui est en bois, ramenée par mon grand-père de la conquête du Tonkin.
Oui.
Et elle tient un pinceau et je m'y reconnais bien. Une main avec un pinceau, c'est moi.
Et elle vous suit dans toutes vos maisons.
Je l'emmènerai dans ma tombe aussi.
On retrouve immédiatement Vincent Daré.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Cher Vincent Daré, généralement, les grands décorateurs ont des maisons cartes de visite qui s'étalent dans les pages des magazines de décoration. Vous n'avez pas de maison, ou plutôt, vous avez celle de vos amis, que vous avez bien évidemment toutes décorées. Mais où aimeriez-vous vivre s'il fallait choisir le lieu magique de votre vie? À quoi, en fait, ressemble la maison de vos rêves?
La maison de mes rêves est évidemment au bord de la mer. C'est un palais. Bon, évidemment, un palais, mais peut-être ça deviendra moi un petit palais. Mais ça sera au bord de la mer, sur la Méditerranée, peut-être en Italie, peut-être à Nice, la Côte d'Azur d'autrefois, que j'ai découvert l'année dernière et qui m'a séduit totalement, ce côté désuet, cette ville baroque, c'était merveilleux. Mais quand même, j'ai des maisons, parce que ma maison carte de visite a fait d'ailleurs la couverture du dernier World of Interior.
Ah,
et j'ai une maison mais qui est un appartement, mais qui donne sur des jardins et tout ça. J'aime bien, je crois justement que en fait, nos appartements sont des laboratoires de notre imagination. Et comme ça, on peut se permettre des folies que les autres n'auraient peut-être pas envie d'avoir. Parce que quand même, quand on décore des maisons pour des gens, c'est un dialogue. Donc il faut... Moi, je trouve qu'il faut respecter et comprendre que les gens... Voilà, et puis les gens doivent se sentir bien. Qu'est-ce que vous aimez? Voilà. Et puis après, on essaye de faire des compromis. On essaye quand même de garder. Mais moi, je ne suis pas un dictateur. Donc, je suis plutôt dans le dialogue.
Karl Lagerfeld affirmait qu'aucune décoration intérieure, même la plus réussie, ne résiste à une décennie qui passe. En fait, selon lui, au bout de 10 ans, les goûts de la société en marche démodent n'importe quel intérieur. Vous êtes d'accord ou bien faut nuancer?
L'approche de Karl m'a beaucoup aidé parce que j'ai travaillé avec lui, donc je l'ai vu changer. ces décorations comme des robes. Et en fait, j'ai compris après, et je disais, mais c'est dommage, ces objets. Il ne faut pas s'attacher à ces objets, c'est, pas, c'est des souvenirs. Les souvenirs, ça ne sert à rien. Il faut penser au prochain.
Par c'est comme exemple, quand la collection Memphis, il avait décoré un appartement voilà, tout en Memphis entièrement. Et il a tout vendu.
Il a tout vendu. D'ailleurs, après, il a dû regretter parce que ça fait maintenant des chiffres monumentaux. Mais Karl n'était pas un homme. En fait, Karl dépensait de son argent, il s'en foutait complètement. Et il n'était pas quelqu'un qui faisait des placements. Il achetait très cher et il ne revendait pas aussi cher qu'il l'avait acheté. Et ces maisons, en fait, il les redécorait parce que ça lui permettait de faire page blanche sur son passé et de se dire « Ah ben, de toute façon, le passé ne sert à rien, je pense à l'avenir. » Et après, il m'a dit ça et j'ai compris, j'ai fait la même chose à un moment quand j'avais cette... Au départ, j'avais la maison d'arrêt qui était une petite galerie rue du Mont-Abord. Et j'ai voulu tout changer et je me suis dit, je vais vider mon appartement, tout vendre,
ouais,
vendre les meubles de toutes les collections, vendre mes souvenirs.
En 2016.
Oui, et j'ai mis ça, j'ai refabriqué mon appartement chez Piazza et j'ai tout vendu. Et ça m'a permis d'avoir de l'argent, de refaire un projet plus grand. Mais en même temps, j'ai compris ce que disait Karl, c'est que quand le commissaire priseur Frédéric Champ m'avait dit « si tu as des objets, garde-le, auquel tu es attaché », ils ont commandé à vider ma maison. Et tout d'un coup, je me suis dit « mais je respire ». Et je les rappelais, je rappelais les déménageurs, je dis « venez rechercher ça, mais je le donne » et tout ça. Et en fait, je leur courais derrière en donnant tout.
Mais est-ce que vous recommanderiez à des particuliers d'avoir le culot, au moins une fois dans leur vie, de faire ça, c'est-à-dire de se délester de tous les objets qui encombrent notre vision au quotidien, dans lesquels on vit sans même plus les voir,
oui.
pour recommencer, avoir l'illusion
oui.
de recommencer à
oui,
zéro.
Oui, c'est ça, mais l'illusion, je crois qu'elle est totale, parce que ça vous donne envie d'acheter, de racheter, de remeubler. Après, on doit garder quelque chose parce que c'est comme autrement, c'est comme quand on s'habille que c'est que des vêtements neufs, c'est vulgaire, c'est bien d'avoir des
oui,
choses
qui
sont mélangées.
Oui, c'est ce que disent les lords anglais, n'est-ce
voilà,
pas ?
Voilà, mais ça c'est très très chic. Mais c'est la même chose, je crois, dans la décoration, il faut avoir des choses qu'on a depuis toujours et des choses. Mais c'est vrai que d'avoir des objets qui nous suivent depuis trop longtemps, ils sont chargés de souvenirs et ils nous enterrent nous-mêmes. On meurt, et c'est là où Karl, en fait, avait peur de la mort, et pour lui, ça lui permet peut-être de se dire « j'ai encore une nouvelle vie ».
Mais alors l'exception qui confirme la règle, je songe à l'appartement de Coco Chanel, rue Cambon, dans ses tons de Havane, avec ses paravents de Coromandel et puis les canapés surdimensionnés dessinés par elle. Quand même, il résiste avec un panache fou au temps qui passe, cet appartement.
Oui, mais justement parce qu'il a dépassé le temps. Parce que c'est comme quand on voit les cafés. Tout le monde a cassé tous les cafés à Paris. Et puis maintenant, on recherche les cafés des années 50 parce qu'ils sont sublimes.
Voilà.
Mais parce qu'ils ont dépassé leur mode. C'est comme la peinture. Fontana, dans les années 80, ne valait plus rien. On pouvait l'acheter pour rien du tout. Maintenant, Fontana est remontée. Et c'est la même chose. L'appartement de Chanel a été préservé aussi parce qu'il représente son goût. D'ailleurs, qui est le goût, pas seulement d'elle, mais de Missia Certe et de
oui,
José Maria Certe.
Qui était son ami.
Voilà, et avec qui lui a donné ce goût des paravents, du cristal,
voilà.
Des choses, de tout ce côté un peu baroque.
Et mais Chanel... les canapés vraiment surdimensionnés, en din, merveilleux.
C'est d'un chic
fou. Mais par exemple, conseil de déco, Vincent Daré, vous recommandez, dans des pièces relativement petites, vous recommandez d'avoir l'audace de glisser... une chose, un objet surdimensionné.
Ah oui, évidemment. Vous avez raison, de toute façon, vous y connaissez. Eh bien, il faut évidemment mettre des choses surdimensionnées parce qu'autrement, ça pourrait être tout riquiqui. Un grand objet dans une petite pièce donne une surprise.
Bon, Vincent Daré, vous dites que vieillir est en fait la chose la plus difficile. Donc, il ne faut surtout pas avoir de regrets. Quels sont les projets fous qui sont les vôtres pour les années qui viennent ?
Eh bien là, je vais sortir un livre pour Noël qui s'appellera le Petit Théâtre de Vincent Daré, où je parle de tous mes décors éphémères qui sont normalement pas dans les livres, qui sont les costumes que j'ai faits pour le cinéma, pour le théâtre, des décors que j'ai faits, par exemple, quand j'ai fait la mise en scène, la vente du Ritz chez Arcurial, des décors pour des galeries, des fêtes, parce que j'aime la fête. Donc, ça parle de tout ça.
Le contraire m'aurait surpris.
Voilà. Et je l'ai fait pendant le premier confinement. Je me suis mis tout seul, je ne supportais pas. Je me suis dit, je ne peux pas rester pendant plusieurs mois chez moi enfermé sans faire quelque chose. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai enfin le temps de faire ce livre inutile. Et j'ai invité, là, ça sera des amis actrices, puisque je trouvais ça bien, qui feront les textes.
Bon, alors, dans très, 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 très longtemps, une phrase, voilà, qu'on trouvera associée à vous. Il paraît que vous avez déjà prévu votre épitaphe. Il paraît que votre épitaphe, vous voulez que ce soit je m'en fous pas mal.
Et oui, comme disait Edith Piaf, je trouve que c'est tellement joli.
N'est-ce pas? Bon, écoutez, c'était absolument euphorisant de se balader cet après-midi en votre compagnie. Vincent Darré, je vous dis à très vite.
Moi aussi, merci. J'étais ravi de votre rencontre.